Nous allons maintenant accueillir Mathieu de la Patrie des Anonymes pour faire leur chronique semi-mensuelle. Donc, bonjour Mathieu.
Bonjour Brad, ça va?
Ouais, ça va toi?
Oui, merci beaucoup. Donc, quelques petits suivis aujourd'hui sur des sujets qui ont été traités par mes collègues dans les dernières semaines. Donc, quelques petites nouvelles, mais quand même qui ont leur importance. En premier, Simon, vous avez parlé il y a 2 semaines des visas électroniques que le Canada impose de plus en plus à un nombre de plus en plus grand de pays et avec de plus en plus d'informations qui sont soutirées aux voyageurs et autres personnes qui veulent venir au Canada. Dans le même ordre d'idées, on a su récemment que l'Union européenne et le Canada négociaient, entre guillemets, la question des visas parce que, bon, dans le cadre un peu des négociations sur le traité de libre-échange, mais sans que ça soit nécessairement relié officiellement, il y a quand même les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie qui font partie de l'espace européen, de l'Union européenne, qui doivent toujours avoir un visa depuis quelques années pour venir au Canada, et ça dérange profondément l'Union européenne. Pour l'Union, ça viole les principes de réciprocité au niveau, entre autres, de la libre circulation des personnes. C'est drôle parce que la réaction du ministère de l'Immigration, du ministre McCollum, ça a été de dire, entre autres, je cite, la politique des visas du Canada ne repose pas sur la réciprocité, ajoutant que les pays devaient satisfaire les critères canadiens pour être exemptés de visa. Ce qui est un peu particulier quand on parle d'alliés, entre guillemets. Le gouvernement doit garantir un équilibre entre l'accueil des visiteurs au pays et la protection de la santé. La sécurité des Canadiens, même discours habituel que les conservateurs. Et le porte-parole aussi précise que la politique sur les visas ne fait pas partie des accords de libre-échange, la fameuse entente qui n'est toujours pas ratifiée. Mais c'est quand même assez particulier parce que même à l'époque de Harper, il y avait eu des promesses qu'il n'y aurait plus du tout de visa pour les ressortissants européens pour venir au Canada. Et ce qu'on ne dit pas dans les articles qui ont traité cette question-là, c'est que si la Bulgarie et la Roumanie ont des visas depuis quelques années, c'est parce que c'était une volonté du gouvernement conservateur de l'époque de réduire l'arrivée de réfugiés roms qui sont persécutés en Europe, dans certains pays, pour venir au Canada. Donc, c'est un peu ça le fond du problème et c'est toujours une impasse, il n'y a pas d'entente actuellement. Au Québec, Marie-Ève vous a parlé il y a quelques semaines de la politique, la future politique d'immigration du gouvernement du Québec. Il y a eu plusieurs ballons d'essai de lancer, des retours en arrière, des 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On parlait d'augmenter le nombre d'immigrants qui seraient acceptés par Hano-Québec de 50 à 60 000 dans le cadre d'une nouvelle réforme qui serait beaucoup plus basée sur les besoins du marché économique québécois et non pas sur les questions d'asile ou de réunification des familles. Il y a une consultation publique qui s'en vient dans les prochains mois. Et là, la ministre Kathleen Veale a comme reculer en disant non, c'est vrai qu'on va rester à 50 000 pour l'instant, on sait pas trop. Il y a eu beaucoup de remises en question de tout ça pour toutes sortes de raisons un peu aux extrêmes de l'échiquier idéologique et politique. Mais on a vu dans ce débat-là, c'est ce qui est inquiétant un peu, les partis québécois et de la CAQ jouer un peu la carte nationaliste, un peu la carte nationaleuse finalement. Il y avait eu des accusations de lancer de part et d'autre là-dessus. Et même François Legault de la CAQ en a profité pour dénoncer Ottawa qui axe beaucoup sa politique sur la réunification des familles plus que sur les besoins des entreprises canadiennes ou québécoises. Il y a eu la question de la maîtrise du français, la question d'intégration, d'emploi pour des futures personnes, des personnes immigrantes qui viennent au Québec. On a dit qu'il faut investir plus en éducation, en formation pour intégrer plus les gens, mais ça a été un débat un petit peu larvé dans les dernières semaines parce qu'évidemment, le gouvernement Couillard fait ça comme d'habitude assez tout croche en lançant des ballons, en lançant des idées sans vraiment les appuyer et laisse un peu le champ libre à tous ceux et celles là, qui peuvent avoir des préjugés à mettre sur la place publique. Donc, on reste pour le statu quo pour l'instant, mais c'est un peu de l'improvisation et on verra si éventuellement le Québec s'enlignera sur une politique beaucoup plus ouverte sur, entre autres, la question de l'asile et d'accueillir des gens par solidarité, non pas juste pour répondre à nos besoins économiques. On a la phrase ici de la ministre que cette politique va permettre d'éviter au Québec un recul de sa population en âge de travailler. Donc, c'est vraiment ça le nœud un peu de cette politique-là. Sinon, réfugiés syriens, on en parle moins depuis quelques mois. Officiellement, il y a 25 000 personnes qui sont arrivées en quelques mois. On ne sait pas trop si c'est le cas, s'il n'y a pas eu des chiffres qui incluaient des gens qui étaient déjà arrivés ou des gens qui vont arriver éventuellement. Mais il y a un blocage au niveau des parrains privés qui doivent passer par un processus assez bureaucratique, assez officiel. Mais beaucoup de gens n'ont pas de confirmation s'ils vont accueillir les familles avec qui on fait des parrainages, entre autres en Syrie. Ben, c'est beaucoup en Syrie, finalement, ben, des gens d'origine syrienne. Donc, les groupes de parrainage au Canada demande de reconsidérer le plafond d'accueil de réfugiés et les coupes dans les traitements de dossiers pour cette année, parce qu'on est déjà rendu supposément au maximum, alors que les arrivées de certains groupes sont repoussées jusqu'à l'an prochain. Donc, ça fait vraiment un problème. Les gens sont prêts, les communautés sont prêtes à recevoir des gens, mais on leur dit que ça va prendre du temps. C'est une espèce de système de programme, ça s'appelle le programme mix des réfugiés désigné par un bureau des visas, en collaboration avec le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, qui collabore avec les répondants privés, les parrains au Canada. Et puis, il y a des listes d'attente, et etc. On dit qu'à ce jour, 2200 Syriens et Syriennes sont arrivés par ce programme-là. Et ces gens-là, ces groupes-là demandent qu'il y ait que ça soit déplafonné, donc que plus de gens puissent arriver au Canada par ce réseau-là, qui souvent part d'initiatives de la communauté, pas nécessairement de milieux d'affaires ou tout ça, mais souvent des communautés déjà ordinaires, donc qui veulent accueillir des gens. Donc là-dessus, il y a un appel aussi à donc déplafonner ça, je me répète. Vous dire aussi, c'est un suivi un peu aussi. Simon, vous parlez il y a deux semaines des nouveaux pouvoirs du SRS en vertu de la loi C-51. Puis aussi, il y a eu la loi antiterroriste en 2015 qui a changé plusieurs articles pour favoriser, disons, l'accusation de gens soupçonnés de différentes choses. Récemment, il y a eu deux personnes qui ont été arrêtées en vertu de l'article 83 du Code criminel, qui est le fameux article qui parle d'avoir tenté de quitter ou d'avoir quitté le pays pour participer à des activités d'un groupe terroriste à l'étranger. Il y a eu un homme qui s'appelle Ismaël Habib à Montréal qui a été accusé de ça dans une espèce de... C'est un peu improvisé ça aussi. Il est arrêté pour d'autres choses. Finalement, il l'a accusé de ça. Là, il est toujours en détention. C'était quelqu'un de Gatineau, bon, qui a été accusé à Montréal. Et la GRC nous dit qu'elle a des raisons de crainte qu'il était sur le point de, etc., etc. Donc, c'est la GRC dans ce cas-ci. C'est pas le CRS, mais c'est un peu la même approche. Mm-hmm. Et... il y a eu aussi un homme à Toronto qui s'appelle Kevin Omar Mohamed, qui était détenu, qui est détenu depuis un bon bout pour le même genre d'article. Je répète, était accusé formellement de participation éventuelle à une activité d'un groupe terroriste. Mais c'est toujours le flou dans ce genre d'histoire-là. On parle, on évoque la sécurité nationale pour pas parler un peu c'est quoi les prétextes et c'est quoi la preuve, mais on se demande vraiment toujours ce qui se passe parce que c'est des gens qui, soit souvent sont mineurs, soit sont des très jeunes, qui ont été beaucoup sur Internet, mais on sait pas trop exactement c'est quoi. Puis c'est des conséquences à la fois des nouvelles dispositions de la loi antiterroriste et de C-51 qui accordent plus de pouvoir aux autorités policières et sécuritaires. Donc, il y a plusieurs cas qui pop-up ces temps-ci comme ça un petit peu partout et beaucoup de gens se demandent un peu où on s'en va avec ça et si la justice s'applique vraiment dans les cas de ces personnes-là. Parce qu'on sait que les pouvoirs ont été accrus et le gouvernement libéral a pas vraiment indiqué qu'il allait reculer, entre autres sur C-51, ni les nouveaux pouvoirs du SRS, ni les nouveaux articles du Code criminel. Donc, il y a quelque chose qui est un peu inquiétant là-dedans.
Oui.
Oui. Au niveau international, pour tranquillement terminer, c'est sûr que le suivi sur ce qui se passe en Europe, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a tellement d'événements, tellement de choses qui se passent. Il y a eu quand même le pape en fin de semaine qui s'est rendu sur l'île de Lesbos, en Grèce, pour aller faire la leçon finalement aux pays européens sur la gestion de la crise des migrants-migrantes. Il est reparti avec quelques réfugiés dans son avion pour les parrainer. Je sais pas si les gens se rappellent, mais le premier voyage que ce pape-là avait fait en arrivant au pouvoir, c'était de s'être rendu à l'île de Lampedusa, qui était la fameuse île en Méditerranée, l'île près de la Sicile, qui accueillait tous les réfugiés morts ou vivants qui arrivaient de Libye pendant des années. Il a fait un appel quand même contre les murs, contre les barrières, contre les lois sécuritaires pour l'accueil des personnes qui en ont besoin. Bon, c'est un vieux pape, c'est un vieux bonhomme. Ouais. On n'est pas d'accord avec lui sur bien des choses, mais quand même, il prend le micro pour dire que les pays européens, dans leur grand préjugé, dans leur grande gestion économique de la chose, sont dans le champ, finalement. Il a fait ce geste-là en fin de semaine. Les agences des Nations Unies ont aussi condamné la répression contre les migrants à la frontière macédonienne et grecque. Mm-hmm. Entre autres, beaucoup, des centaines de blessés depuis deux semaines par tir de balles de caoutchouc et de grenades lacrymogènes. C'est quand même assez élevé. On parle de réfugiés qui veulent juste se rendre dans un pays pour être hébergés. Et là, sont bloqués, on le sait, depuis un mois. Tout le réseau, toute la route des Balkans est fermée au complet, ça part en Macédoine. Et en Grèce, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'entassent dans des camps qui sont plus des camps d'accueil, mais sont carrément des prisons. Et on veut en renvoyer vers la Turquie, donc par milliers en vertu de l'accord dont Marie-Ève vous a parlé il y a un mois, et Simon il y a deux semaines. Mais il y a vraiment quelque chose de particulièrement inquiétant là-dedans, surtout que Ban Ki-moon, ça a passé un peu inaperçu, il y a 2 semaines, a fait un appel aux pays riches en demandant qu'il y ait 500 000 réfugiés syriens qui soient accueillis sur 3 ans. C'est un chiffre assez important. Et actuellement, on sait que les pays riches en ont accueilli 67 000 et ça comprend les 25 000 Canadiens. Donc, c'est vraiment un chiffre extraordinaire. Et on rappelle que le Liban en a plus d'1 million, la Turquie 2,7 millions et la Jordanie 600 000. Donc, c'est des pays pauvres donc qui supportent cette situation-là d'une guerre qui, entre autres, causé ou maintenu par les pays occidentaux. Et là, donc, t'as Ban Ki-moon qui fait un appel tout simple en disant qu'il espère une hausse de la solidarité mondiale, tout simplement, oui. et qu'on ne l'a pas actuellement. L'Europe est complètement dans une autre approche. Les États-Unis ont accepté à peu près personne. L'Australie, la même chose. Donc, on parle des pays riches. Donc, il y a vraiment un problème. Et on rappelle qu'il y a des dizaines de milliers de personnes bloquées en Grèce et dans d'autres pays qui peuvent pas faire de demande et qui peuvent pas avoir asile. Si j'ai le temps, Brad, en terminant.
Vas-y.
Merci. Une bonne nouvelle, ça dépend du point de vue, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle. En France, beaucoup de contestations depuis quelques mois de l'état d'urgence, des mesures sécuritaires. Et finalement, le président Hollande et le Parti socialiste ont été obligés de renoncer à imposer la déchéance de citoyenneté aux personnes binationales en France. Bon, pour une question de partisanerie, la droite trouvait que c'était trop. C'est quand même surprenant. C'est la gauche qui proposait des mesures plus répressives, mais ça ne pouvait pas passer parce que le président et le PS voulaient faire passer à la fois l'état d'urgence dans la Constitution de façon permanente et à la fois la déchéance de nationalité pour les binationaux et même les nationaux. Donc, des gens se seraient retrouvés sans nationalité pour des actes reliés à, par exemple, au dit terrorisme. Donc, une espèce de chicane qui fait que ça a été abandonné. Donc, c'est mis de côté pour quelque temps en France. Mais on a quand même réussi à faire passer une clause qui s'appelle la perpétuité réelle, un amendement qui a été voté par l'Assemblée nationale au mois de mars, qui fait que les peines sont beaucoup augmentées pour les crimes du terrorisme. Les peines de sûreté, entre autres, minimum, passées en prison de 22 à 30 ans. Mais il y a quand même, je pense, la mobilisation en France, malgré l'état d'urgence, de toutes sortes de groupes qui ont dit que ça n'a pas d'allure d'enlever la nationalité à des gens qui sont à la fois qui ont deux nationalités ou qui en ont seulement une, sous souvent des soupçons. C'est même pas dans des procès complets, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et on salue aussi les gens en France qui, à travers le mouvement Nuit debout, entre autres, qui contestent cette espèce d'état mixte de, d'état sécuritaire, de néolibéralisme sauvage. Et donc, la France se réveille un peu, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle au niveau international. Et on espère que dans les prochaines semaines, on pourra vous annoncer qu'il y a d'autres pays qui font des moves intelligents et non pas répressifs et réactionnaires comme on a depuis quelques mois.
Oui, bien écoute, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour vraiment venir mettre fin à notre émission aujourd'hui. Donc, merci d'être là, Mathieu.
Merci à toi, Brad. Et dans 2 semaines, ça sera Marie-Ève.
OK, parfait. Bon, on va accueillir Marie-Ève dans 2 semaines. Donc, c'était la patrie des anonymes. Et puis, ça conclut en profondeur sur CKUT 90.3 FM. Restez à l'écoute.